VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du mercredi 23 janvier 2019, en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Zimbabwe, appel au dialogue du président Emmerson Mnangagwa face à la fronde sociale.
Fronde sociale également au Soudan, où la police a encore usé de gaz lacrymogène hier contre les manifestants. Arrivée du président Omar el-Bashir au Qatar.
Au Nigeria, le gouvernement a augmenté de 50% le salaire minimum après un bras de fer avec les syndicats de travailleurs.
Une première à l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a nommé un diplomate chinois pour succéder à l'Algérien Saïd Djinit, son émissaire spécial dans la région des Grands Lacs.
Entretien sur la Syrie aujourd'hui à Moscou entre les présidents russes et turcs, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa tente de tourner la page de la fronde meurtrière contre la hausse des prix du pétrole. Il a lancé un appel au dialogue que l'opposition a aussitôt rejeté en exigeant la fin de la répression. Les précisions de John Lyndon.
À peine rentré à Harare hier, Emmerson Mnangagwa a invité les chefs des partis politiques et les responsables religieux et de la société civile à engager un dialogue national avec son gouvernement. Faisons de l'économie notre priorité, faisons de la population notre priorité, a-t-il lancé en promettant de sanctionner les dérapages de ses forces de l'ordre. Sa main tendue a été immédiatement refusée par le chef de l'opposition. Nelson Chamisa, le président du mouvement pour un changement démocratique, a laissé entendre sur Twitter que pour dialoguer, il faut être libre de parler. Or, a-t-il poursuivi, les voix de la nation sont aujourd'hui bâillonnées par la prison ou par la peur. Dans un rapport publié hier, la Commission zimbabwéenne des droits de l'homme, nommée par les autorités, a accusé l'armée et la police de torture systématique. Le Zimbabwe a été secoué toute la semaine par de violentes manifestations contre la hausse de 150% des prix de carburant dans un pays étranglé par deux décennies de crise économique.
Et au Soudan, pays également secoué par une fronde sociale et en proie à une crise économique, la police a usé hier de gaz lacrymogène contre des manifestants à Omdurman, ville jumelle de Khartoum, la capitale. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
La police a usé du gaz lacrymogène hier pour disperser les manifestants. La première fois, c'était dans l'après-midi à Omdurman et la deuxième fois pendant une manifestation nocturne dans la même ville et à Khartoum, la capitale. Quasi quotidienne, les manifestations déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain se sont vite transformées en rassemblement contre le pouvoir d'Omar el-Béchir. Lundi, l'association des professionnels soudanais a annoncé qu'un protestataire blessé lors des affrontements avec les forces de sécurité à Khartoum a succombé à ses blessures. Elle a appelé à se rassembler à nouveau demain jeudi dans toutes les villes et villages du Soudan. Selon un bilan officiel, il y a eu 26 morts, dont deux membres des forces de sécurité. Le président Omar el-Béchir a imputé ces violences à des conspirateurs sans les nommer. Il s'est rendu hier au Qatar à sa première visite à l'étranger depuis le début des manifestations.
Au Nigeria, le gouvernement a pour sa part accordé une augmentation de 50% du salaire minimum après un bras de fer de plusieurs mois avec les syndicats de travailleurs et des menaces de grève. Le point avec Morgane Guiriec.
Au Nigeria, le salaire minimum est de 18 000 naira, un peu moins de 44 euros par mois. Le ministre du Travail, Chris Njige, affirme que la somme de 27 000 naira mensuelle a été approuvée après une réunion du Conseil national des États. Cet accord doit encore être ratifié par le Parlement. Il sera applicable au secteur privé et public et devra être révisé tous les 5 ans. Les entreprises employant moins de 25 personnes sont exemptées. Les syndicats, qui ont menacé à plusieurs reprises de paralyser le pays s'ils n'obtenaient pas un salaire minimum de 30 000 naira, n'ont pas encore réagi. En novembre dernier, les gouverneurs des États avaient rejeté un accord pour porter le salaire minimum à 30 000 naira, le qualifiant d'impraticable, à moins de réduire le nombre de fonctionnaires ou d'augmenter les fonds qui leur sont alloués par le gouvernement fédéral. De nombreux États n'ont pas payé leurs fonctionnaires depuis des mois, pointant du doigt le ralentissement économique qui a plombé le géant ouest-africain depuis 2016. Le pays se remet difficilement de la récession, qui devrait voir son PIB augmenter de 2% en 2019, selon les estimations du Fonds monétaire international publiées lundi. Un chiffre revu à la baisse, les prévisions de croissance étant initialement de 2,3%.
Toujours au Nigeria, les autorités sanitaires ont déclaré hier une nouvelle flambée épidémique de fièvre de Lassa qui a fait 16 morts depuis début janvier, malgré les succès enregistrés l'an dernier pour faire reculer la maladie. Au total, 172 cas suspects ont été recensés, dont 60 ont été confirmés positifs et 112 négatifs. En 2018, la fièvre de Lassa avait fait 171 morts dans 23 États du Nigeria, mais la réaction rapide des autorités sanitaires avait permis de contenir l'épidémie.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé hier un ambassadeur chinois, Wang Xia, comme son nouvel émissaire pour la région des Grands Lacs, une première pour Pékin qui illustre son rôle croissant au sein des Nations Unies. Il succédera à l'Algérien Saïd Djinit, qui a achevé plus de 4 ans de mission. Très impliqué diplomatiquement et économiquement en Afrique, la Chine est devenue récemment le deuxième contributeur financier à l'ONU après les États-Unis, une place occupée jusqu'alors par le Japon. La part chinoise atteint aujourd'hui 12% du budget de fonctionnement de l'ONU et 15% de celui des opérations de paix. Membre permanent du Conseil de sécurité doté d'un droit de veto, Pékin est aussi un grand fournisseur de troupes à ses missions de paix onusiennes, avec plus de 2500 casques bleus chinois déployés notamment au Mali, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud ou au Liban.
Trois Américains d'origine kényane ont été inculpés de conspiration en vue de soutenir le groupe État islamique après avoir été arrêtés dans un aéroport du Michigan, ici aux États-Unis, selon un document judiciaire déposé mardi devant un tribunal fédéral. Les trois hommes, tous âgés d'une vingtaine d'années et appartenant à la même famille, sont accusés d'avoir enregistré des vidéos dans lesquelles ils prêtaient allégeance à l'organisation djihadiste et évoquaient une possible attaque aux États-Unis si l'un d'entre eux était empêché de voyager pour rejoindre cette organisation. Ils risquent jusqu'à 20 ans dans une prison fédérale, a précisé le ministère américain de la Justice.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le Sénat doit se prononcer demain sur deux propositions, républicaines et démocrates, pour tenter de mettre fin au shutdown, la fermeture partielle du gouvernement fédéral, qui est entré hier dans son second mois et pèse sur l'économie et le moral des Américains. Cette impasse est le résultat d'un bras de fer entre les démocrates au Congrès et le président Donald Trump sur le financement d'un mur à la frontière avec le Mexique pour lutter, selon M. Trump, contre l'immigration clandestine et le trafic de drogue. Les démocrates s'opposent à ce mur.
Le président Trump a justifié hier la fin du briefing quotidien à la Maison-Blanche en évoquant ce qu'il estime être, et je cite, « la malhonnêteté de la majorité des journalistes à son égard ». Le point avec Raissa Gironda.
Le point de presse quotidien du porte-parole de l'exécutif, retransmis en direct à la télévision depuis la célèbre salle de presse de la West Wing, est une tradition solidement ancrée depuis plusieurs décennies. Le dernier point de presse remonte au 18 décembre. La raison pour laquelle Sarah Sanders ne va plus au podium est que la presse la traite de façon très impolie et que la couverture est biaisée, en particulier de la part de certains membres de la presse, a tweeté Donald Trump. Je lui ai dit de ne pas se donner la peine de continuer. La plupart des médias ne nous couvriront jamais de façon honnête, d'où le terme de fake news, a ajouté le président américain. Régulièrement interpellé sur ce thème, la Maison-Blanche souligne que Donald Trump répond fréquemment lui-même aux questions des journalistes depuis les jardins de la Maison-Blanche avant de s'envoler à bord de l'hélicoptère présidentiel.
Les présidents russes et turcs, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, doivent discuter de la Syrie aujourd'hui à Moscou. Monsieur Erdogan cherche à convaincre du bien fondé de sa proposition d'une zone de sécurité dans le nord syrien pour y empêcher toute autonomie kurde. Les deux leaders disent chercher ensemble une solution politique à un conflit qui dure depuis plus de 7 ans, bien qu'ils soient dans des camps opposés en Syrie. Messieurs Poutine et Erdogan ont convenu de coordonner leurs opérations sur le terrain après l'annonce du président Donald Trump sur le retrait des troupes américaines de Syrie.
L'Arabie saoudite a suspendu ses importations de volailles de 5 groupes agroalimentaires brésiliens, faisant valoir des raisons techniques, ont indiqué hier des sources officielles à Brasilia. La nouvelle a suscité des interrogations sur d'éventuelles représailles saoudiennes contre le choix du président Jair Bolsonaro de déplacer de Tel Aviv vers Jérusalem l'ambassade du Brésil en Israël en visant une industrie emblématique du pays. Les sources officielles n'ont divulgué ni les raisons de cette suspension des importations, ni le nom des groupes touchés.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Camrail, filiale du groupe Bolloré et concessionnaire du chemin de fer camerounais, vient de réceptionner un lot de 5 locomotives construites par l'américain General Electric. Ces locomotives d'une valeur de 12,3 milliards de francs CFA font partie d'une commande de 9 au total, dont 4 ont été financées par l'État camerounais. Ils seront mis en service dès le mois prochain, rapporte Investir au Cameroun. L'Éthiopie compte lancer un appel d'offres international pour la réalisation de 6 mégaprojets solaires coûtant près de 800 millions de dollars. Ces projets, destinés à augmenter la capacité énergétique, seront implantés dans les régions d'Oromia, Tigra, Afar et Somalie, déclare la Tribune. Les investissements portent aussi sur 7 centrales hydroélectriques et 3 projets routiers. Les études de faisabilité ont déjà été finalisées. Pour finir, l'Afrique a enregistré un total de 67 millions de touristes en 2018 selon l'Organisation mondiale du tourisme. Ces arrivées correspondent à une hausse de 7% comparée à 2017. En fonction des régions, la croissance est de 10% pour l'Afrique du Nord et 6% pour l'Afrique subsaharienne. Les 10 pays africains les plus visités sont l'Égypte, la Namibie, la Tanzanie, l'île Maurice, le Maroc, le Nigeria, la Tunisie, la Zambie, le Kenya et l'Afrique du Sud.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'homme fort du début de la tropicale Amissa Bongo s'appelle Nicolo Bonifazio.
Oui, 2 étapes et 2 victoires pour Bonifazio. Après la première étape enlevée lundi, l'Italien a encore remporté hier la 2e étape du Tour international cycliste du Gabon. Au classement général, Bonifazio garde le maillot jaune. Il devance l'Érythréen Sirak Tefom et Graipel désormais 3e. Aujourd'hui, la 3e étape amènera le peloton de Lessonie à Franceville.
Football, le Bénin suspendu de toute compétition en Afrique de l'Ouest.
L'UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines de football, a suspendu le Bénin pour 2 ans de toutes ses compétitions après son forfait au tournoi des moins de 20 ans l'an dernier. Le Bénin écope aussi d'une amende de 29 millions de francs CFA. La fédération béninoise de football avait justifié ce forfait, je cite, par l'incapacité de présenter une sélection puisque 6 joueurs sur les 20 retenus avaient été déclarés inéligibles pour la compétition. Le Bénin a déjà été disqualifié pour les qualifications à la CAN des moins de 17 ans pour fraude sur l'âge. La justice béninoise a prononcé des peines de prison ferme pour les joueurs concernés et plusieurs dirigeants, dont l'ancien président de la fédération, Andjorin Moucharaf.
Le PSG sanctionné dans l'affaire du fichage ethnique.
Oui, le club parisien a écopé d'une amende de 100 000 euros infligée par la Ligue de football professionnel. En plus, l'ex-responsable de la cellule nationale de recrutement du centre de formation du PSG, Marc Westerlop, et celui de la cellule Île-de-France, Pierre Reynaud, ont écopé chacun d'une amende de 5 000 euros avec sursis. Bertrand Reuseau, directeur du centre de formation du PSG entre 2013 et 2015, s'est vu lui infliger une amende de 10 000 euros avec sursis. En novembre dernier, un collectif de médias européen, dont Mediapart, a révélé que de 2013 à 2018, la cellule de recrutement du PSG a mentionné des critères ethniques dans ses fiches d'évaluation de jeunes joueurs classés comme français, maghrébins, antillais ou africains.
Ici, en MSL, Tim Howard annonce sa retraite à la fin de la saison.
Oui, à 39 ans, l'ancien gardien de but de l'équipe nationale américaine a annoncé qu'il va prendre sa retraite à la fin de la saison du championnat de football nord-américain MLS, où il évolue avec le Colorado Rapids. Tim Howard est le gardien le plus capé de l'histoire de l'équipe nationale américaine, avec 121 sélections. Il a participé au Mondial Brésil 2014. Il a pris sa retraite internationale après l'échec des États-Unis à se qualifier pour la Coupe du Monde 2018. Et puisque nous sommes aux États-Unis, on y reste justement pour parler de basketball. Avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Toronto et Sacramento 120 à 105, Oklahoma City et Portland 123 à 114, Dallas et LA Clippers 106 à 98.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, le gouvernement a décidé de retourner dans le processus ITE, dont il s'était retiré il y a un peu plus d'un an. Selon notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa, c'est le Premier ministre lui-même, Brigitte Raffini, qui a annoncé cette décision hier en marge d'un forum sur les enjeux et défis du secteur des industries extractives au Niger.
J'annonce solennellement la décision du gouvernement du Niger de reprendre sa place au sein de l'ITE international.
C'est en fin de l'année 2017 que les autorités mécontentes de la décision de suspension prononcée à l'encontre du pays par le conseil d'administration de l'ITE décident de retirer le Niger de ce processus qui est une norme internationale visant à assurer une meilleure transparence dans la gouvernance des industries extractives. Plus d'une année après, elle sera vise à la grande satisfaction des organisations de la société civile actives dans le secteur des industries extractives. Ali Idrissa, coordonnateur du réseau nigérien des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire routable.
Pour nous, ce n'est peut-être qu'une satisfaction morale de voir que le gouvernement nigérien a effectivement compris qu'il faut travailler dans ce processus et a souhaité réadhérer au processus. Nos attentes, c'est le travail. Ce n'est pas aujourd'hui, par cette déclaration, que le Niger est membre de l'ITE. Il y a tout un processus à mettre en œuvre.
Le processus, le Niger l'a déjà entamé, selon le Premier ministre Brigitte Raffini.
Le gouvernement a immédiatement entrepris la réforme du secrétariat permanent ayant abouti à la mise en place d'un nouveau dispositif qui sera doté d'un personnel compétent et en nombre suffisant et d'un groupe multipartite de concertation où les différents acteurs, à savoir l'État, les industries extractives et la société civile, joueront un rôle majeur dans la mise en œuvre de la norme ITE dans notre pays. Le nouveau dispositif institutionnel mettra également en place un plan de communication dynamique qui permettra notamment de diffuser le plus largement possible le rapport ITE.
Le conseil d'administration de l'ITE se réjouit de cette décision des autorités nigériennes selon son secrétaire exécutif adjoint Edmund Rich.
L'ITE se réjouit d'accueillir le Niger dès que possible dans la famille ITE. Le Niger est un pays important dans la famille ITE et nous espérons que l'ITE sera important pour le Niger. L'année 2019 est une bonne année pour cette réintégration du Niger puisque l'ITE va organiser sa grande conférence mondiale à Paris au mois de juin. Et nous espérons que le Niger pourra officiellement revenir dans la famille ITE à cette occasion de cette grande conférence internationale.
Le Niger est l'un des grands producteurs d'uranium au monde. Il produit également de l'or et du pétrole. Depuis 2007 qu'il a adhéré à l'ITE, c'est seulement en 2011 qu'il a été jugé conforme à cette norme. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Nigeria, à moins d'un mois de la présidentielle, le groupe Bring Back Our Girls a organisé une marche de protestation hier à Abuja afin d'accentuer la pression sur les autorités fédérales pour la libération des 112 filles de Chibok, toujours entre les mains des terroristes de Boko Haram. La marche intervient donc en pleine campagne électorale. Reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Mr. President,
no more excuses.
Mr. President,
decide now.
Mr. President,
act now. We want answers.
Monsieur le Président, nous ne voulons plus d'excuses. Monsieur le Président, agis maintenant. Monsieur le Président, nous voulons des résultats. Ce sont quelques slogans de la marche pacifique du groupe Bring Back Our Girls à Abuja. Ils étaient plusieurs dizaines, la majorité en provenance du Nord-Est, à être venus réclamer la libération des 112 filles de Chibok, encore portées disparues. Edith Yassine est membre du groupe Bring Back Our Girls.
We are marching because it's almost five years
nous marchons parce qu'il y a presque 5 ans que les filles de Chibok ont été enlevées dans leur école. Sahel. Après cette tragédie, ce gouvernement a promis de faire libérer toutes les filles après son arrivée au pouvoir et de mettre fin aux enlèvements. Mais sous cette administration, il y a eu le kidnapping de Dapchi et 112 filles de Chibok restent toujours détenues et le gouvernement ne dit rien.
Durant les 4 années écoulées, le groupe est resté au-devant de la scène, organisant des manifestations de rue pour la libération des filles enlevées à Chibok en avril 2014. Obuso Arbarika est originaire de Chibok. Il se rappelle encore des circonstances de l'enlèvement des filles de Chibok et aujourd'hui, il vit dans un camp de déplacés.
J'ai quitté Maïdougouri pour venir protester contre ce qui est arrivé aux filles de Chibok et au village de Chibok en général. C'est un incident malheureux. Ils ont détruit toutes les écoles. Aujourd'hui, il n'existe aucune école secondaire dans notre communauté. Toutes les écoles ont été brûlées et certains de nos habitants ont été tués. Donc, nous ne sommes pas contents de ce qui se passe.
L'armée nigériane affirme avoir affaibli techniquement Boko Haram, mais la situation sur le terrain est encore loin de satisfaire les populations de la région, comme nous le dit Mohamed Oumarou, qui vit désormais dans un camp de déplacés à la périphérie d'Abuja.
Nous vivons une expérience difficile avec les terroristes de Boko Haram. Ils nous pourchassent tous les jours et détruisent notre région. Ils tuent tout le monde là-bas. Pourquoi nous avons fui pour venir rester à Abuja? Nous n'avons rien d'autre à dire, nous voulons juste retrouver nos filles.
Sur les 276 lycéennes enlevées, 57 parviennent à s'enfuir peu après le raid. 107 sont libérées en 2016 et 2017 après des négociations entre le gouvernement et Boko Haram et 112 sont toujours portées disparues. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Banking Money poursuit son expansion en Afrique selon un rapport de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le phénomène de monnaie électronique est en hausse dans la zone CEMAC. Comment fonctionne ce système à Libreville au Gabon, par exemple? Reportage d'Ismaël Obiangze.
Le marché des services financiers mobiles est en plein essor à Libreville. Agents banking ou partenariats avec les réseaux locaux de banques sont des exemples de stratégies déployées pour recruter de nouveaux clients. Omar est un opérateur de ce secteur lucratif.
Les retraits, c'est payant. Le dépôt, c'est gratuit. C'est là. Maintenant, les retraits de 100 francs à 166 670. Maintenant, à partir de 166 000, c'est 5 000 jusqu'à 500 000. Dès que j'ai mon téléphone avec moi, j'ai mon argent, je me balade avec. Avec les banques aussi, qu'à tout moment où il y a des soucis aussi, là, c'est compliqué aussi.
Les clients non bancarisés ou sous-bancarisés ont depuis quelques années accès à un système de dépôt et de retrait d'argent à portée de main.
C'est du tic au tac, c'est direct. Il n'y a pas que tu envoies de l'argent, après on va te dire qu'il faut attendre demain pour que la personne reçoive. Non, c'est de là à là. Tu peux être même à l'autre bout du Gabon, il suffit qu'il y ait le réseau, c'est tout, la transaction passe.
C'est une banque en fait qui est plus rassurante dans la mesure où, quel que soit l'endroit où je me trouve, je peux faire des retraits, par exemple pour acheter des articles ou faire des petites dépenses.
Oui, en plus de réduire le temps et les frais de déplacement, les frais de transaction du Banking Money sont également moins élevés, mais selon Brice Eyinga, analyste économique, c'est la partie visible de l'iceberg.
Pour les populations, le recours à un coût non réglementé font en sorte que les populations payent des services bien plus coûteux qu'ils ne devraient payer s'il y avait des régulations. Pour l'État, c'est un manque en ce qui concerne le prélèvement des impôts et pour les banques classiques, c'est malheureusement la concurrence déloyale qu'ils subissent.
Au-delà d'autres services que fournissent le mobile monnaie, les transactions globales de monnaie électronique sont passées en valeur de 574 milliards de francs CFA en 2015 pour atteindre près de 2000 milliards de francs CFA ces deux dernières années dans la zone CEMAC. De quoi interpeller la Banque des États de l'Afrique centrale qui travaille depuis l'année dernière sur un cadre juridique pour la supervision de cette activité. Libreville, Ismaël Obianze pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Forum économique annuel de Davos, environ 3000 leaders politiques et économiques sont réunis dans la ville suisse pour débattre des tendances commerciales et économiques mondiales. Les analystes craignent que les incertitudes politiques et les tensions commerciales puissent nuire à la croissance. Et les groupes de défense des droits de l'homme mettent en garde contre les dangers des inégalités croissantes. Le point avec Eric Manirakiza.
Le Forum économique mondial est organisé chaque année à Davos, une station de ski dans les Alpes suisses. Sur place, l'ONG Oxfam a lancé un appel aux influents dirigeants du monde, Winnie Byanyima de l'ONG Oxfam International.
Aux gens les plus riches de la planète, les plus puissants et à tous les dirigeants politiques. Vous devez agir pour réduire l'inégalité extrême. Parce qu'elle est incontrôlable. Nous voulons une solution pour mettre fin à cette inégalité qui s'élargit, ralentit nos économies, sape la démocratie et enferme les gens dans la pauvreté.
Klaus Schwab, fondateur du Forum de Davos, a reconnu que l'économie mondiale a laissé beaucoup de gens derrière.
À l'époque des médias sociaux, nous ne pouvons plus tolérer que des personnes soient délaissées pour compte. Nous devons créer une mondialisation plus inclusive.
La patronne du Fonds monétaire international FMI a déclaré lundi que l'économie mondiale se développe, mais à un rythme un peu plus lent.
Nous devons redoubler d'efforts pour résoudre les problèmes communs auxquels nous sommes confrontés. Qu'il s'agisse de réparer le système du commerce mondial, oui, le G20 l'a demandé et il faut le concrétiser pour lutter contre la corruption et l'évasion fiscale, s'attaquer à la menace existentielle du changement climatique.
Christine Lagarde a aussi tenté de rassurer, disant qu'il n'y avait aucune crainte de récession, mais qu'il fallait surveiller de près les tendances et corriger les vulnérabilités. Alors que les leaders mondiaux affichent leur optimisme général, une enquête réalisée avant le forum auprès de centaines de patrons d'entreprises prouve le contraire. Richard Edelman, du Conseil des relations publiques,
La division des classes n'a jamais été aussi grande entre les élites qui pensent que le monde va très bien et la masse qui se demande de quoi demain sera fait.
L'enquête a également montré que le pessimisme des milieux d'affaires est causé par les incertitudes. Bob Moritz du cabinet de consultants PwC Global.
Un jour vous pensez que le Brexit va se produire et un autre jour le contraire. Vous ne savez jamais où vont aller les choses. Aujourd'hui, nous avons des barrières commerciales en termes de conflit avec la Chine. Et le lendemain, une excellente réunion qui s'annonce.
L'enquête a aussi montré un manque de confiance grandissant envers les dirigeants publics du monde entier.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du VIH-Sida et du mariage.
De plus en plus, le test du Sida fait partie des examens prénuptiaux exigés par les partenaires. Dans certains cas, la séropositivité d'un des partenaires met un terme au projet de mariage.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Philippe Kyuniu, médecin en RDC. Il nous dira s'il est possible de vivre une sexualité normale quand l'un ou les deux partenaires sont séropositifs.
Nous écouterons le témoignage de Joël, un séropositif marié à une femme séronégative. Nous avons aussi recueilli les avis de quelques auditeurs.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.